Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Blasio Alto Astral sur Aligre FM 93.1. Gilles Bourguerel pour vous servir, tâchez de vous être agréable. Nous reprenons notre cycle d'interviews.
Alors, nous sommes aujourd'hui le 2 décembre et je suis en compagnie de Sophie Tsitsishvili de Panasket chez elle. Nous sommes à 35 km, je crois, de Rio, dans votre maison que vous allez nous présenter pour les auditeurs, Sophie, mais c'est un peu plus que votre maison, j'ai l'impression.
C'est une maison dont j'ai fait la cession d'utilité à notre association.
Ah.
Voilà. Elle est...
Alors, votre association, on va rappeler...
Les Apprentis de l'Espérance, qui a créé, avec des jeunes ici au Brésil, un institut qui s'appelle l'Institut pour la communication et le développement. Donc, c'est une association aussi, sans fin lucrative. Et c'est à cet institut que nous avons fait cession d'utilité de ce lieu.
Donc, c'est tout à fait officiel.
Ah oui, 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 oui. C'est le Jardin de Gaïa, c'est notre association. Voilà, on a obtenu. Et puis maintenant, depuis peu, en fait, hein, l'année dernière, nous avons été labellisés Ponto Cultural. Ça veut dire qu'on est un centre culturel. Oui, c'est ça. Ceci dit, depuis 1997 que nous avons ce lieu, où nous avons tout fait, tout reconstruit, enfin tout construit et tout planté, avec des enfants, avec des volontaires. Il a été tour à tour, d'abord un abri. Un abri pour des enfants en grande difficulté, parce que j'avais un orphelinat, enfin j'avais un abri à 70 km d'ici et qui a été emporté par un ouragan, alors que j'avais 80 et quelques enfants.
Voilà.
Et du coup, nous avons travaillé avec les pouvoirs publics, avec le juge pour enfants et la police fédérale à réacheminer les enfants dans leur foyer biologique, certains à 4000 km d'ici.
Et oui, le Brésil est vaste.
Très vaste. Et du coup, certains ne pouvaient, il n'y avait pas de sortie pour eux parce que leurs parents étaient emprisonnés ou dans des asiles.
Ah ben, en général, le gamin qui n'a pas de toit, il n'a pas un papa et une maman.
Voilà, donc c'était toujours des situations très compliquées. Donc, le juge m'a donné la garde provisoire de ses enfants que j'ai assumée pendant 17 ans.
Ah mais alors, Sophie Tsitsishvili, vous êtes très impliquée, mais vous n'êtes pas brésilienne. Vous habitez en France.
J'habite en France, mais je suis citoyenne brésilienne.
Ah d'accord.
Je suis résidente au Brésil. J'ai une fille biologique brésilienne.
Alors, votre époux était un Brésilien, on est d'accord.
Voilà, décédé aujourd'hui. Et nous avons pu mettre en place ce projet, mais avec les Apprentis de l'Espérance à Paris, en sensibilisant des jeunes en difficulté d'insertion pour qu'ils viennent aider à l'éducation petite enfance, au jardinage, à la petite construction, à la restauration, au paysagisme, etc. Et apprendre sur le terrain non seulement ce qu'est la solidarité internationale, mais aussi éventuellement éveiller des vocations.
Donc, quand vous êtes ici, c'est pas que pour du tourisme, on est d'accord.
Et jamais pour du tourisme. Jamais. Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs, de faire du tourisme ici.
Non, mais...
Chaque fois que j'ai dû bouger dans le Brésil, c'était dans le cadre d'échanges, de rencontres, d'échanges de bonnes pratiques avec d'autres institutions. Là, par exemple, je suis invitée à Brasilia pour aller au Sénat pour parler des droits de l'homme avec tout un aréopage de psychologues et de personnalités qui sont très engagées. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire faire du tourisme au Brésil.
Mais... qu'est-ce que ça vous apporte, à vous, Sophie ?
D'abord parce que je m'ennuie quand je ne suis pas en train de faire des...
Vous êtes d'un tempérament un peu hyperactive, il faut dire.
Ouais, c'est ça, je suis hyperactive. Ensuite, parce que je peux appliquer ici tout ce que j'ai pu apprendre de par mon éducation, de par ma famille, de par mes voyages... Voilà, et c'était une nécessité pour moi de me mettre au service des enfants ici, puis des adolescents, Et puis maintenant, bon, que j'ai pris un petit peu de la graine et un peu d'âge aussi, je suis plus dans les champs, dans la production culturelle, dans la réalisation de rencontres entre artistes, scientifiques et autres chercheurs.
Viva Dez Carvalho, uma pérola.
Aprendeu-se a liberdade, combatendo em Guararapes, entre flechas e tacapes, facas, fuzis e canhões, brasileiros irmanados, sem senhores, sem senzala, e a senhora dos prazeres, transformando pedra em bala. Bom, Nassau já foi embora, fez-se a revolução, e a festa da pitomba é a reconstituição. Jangadas ao mar, pra buscar lagosta, pra levar pra festa em Jaboatão. Vamos preparar lindos mamulengos pra comemorar a libertação. Jangadas ao mar, pra buscar lagosta, pra levar pra festa em Jaboatão. Vamos preparar lindos mamulengos pra comemorar a libertação. Vem maracatu, bumba meu boi, vaquejada, cantorias e fandangos, maculelê, marujada, cirandeiro, cirandeiro, sua hora é chegada. Vem cantar esta ciranda, pois a roda está formada. Oh, cirandeiro, 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 ó, oh, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol. Oh, cirandeiro, cirandeiro, mais do que o sol.
E lá vem maracatu, bumba meu boi, vaquejada, cantorias e fandangos, maculelê, marujada,
cirandeiro, cirandeiro, sua hora é chegada. Vem cantar esta ciranda, pois a roda está formada. Oh, cirandeiro,
cirandeiro, cirandeiro, ó, oh, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol.
Oh, cirandeiro,
cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol.
Ó, cirandeiro,
cirandeiro, cirandeiro, ó, a pedra do seu anel brilha mais do que o sol.
Est-ce que c'est gratifiant quand on a des résultats, ou est-ce que parfois vous êtes déçu par un gamin qui vous aviez de l'espérance et puis en fait il vous a déçu, il s'est pas bien comporté, je ne sais pas.
Il y en a eu peu. Il y en a eu très, très peu qui se sont perdus, non ? On est en contact et c'est ça la force de... Enfin, ce qui nous amène à continuer, c'est qu'on est en contact avec la plupart des jeunes qu'on a connus il y a 40 ans. Bruno, par exemple, qui nous donne un coup de main pour la restauration du jardin, est dramaturge. Il a eu
le prénom pourrait...
Bruno, bleu. Il est dramaturge avant tout.
Alors, je pense qu'il est aussi très érudit parce qu'il m'a demandé comment prononcer précisément mon prénom. Donc, j'ai dit, est-ce que c'est Gilles ? Alors, j'ai dit, non, tu ne prononces pas le S, tu dis Gilles. Et il m'a dit, ah oui, comme Gilles Deleuze.
Quand même, pas mal.
C'est le premier Brésilien qui me sort le nom de Gilles Deleuze.
Ouais.
Et j'ai eu un petit peu honte parce que je dois confesser que je n'ai jamais ouvert un livre de Gilles Deleuze.
Et pourtant, ça nous correspond bien, ouais, ouais. Non, mais c'est ça. Je veux dire, bon, il a pas fait d'études. Il est vraiment un autodidacte. Mais à partir du moment où il a commencé à écrire et construire des projets artistiques et dramatiques, il s'est vraiment bonifié dans le sens où il a fait des recherches, il a rencontré des gens d'un certain niveau. Du coup, ça l'a valorisé et ça c'est très important.
C'est prouvé. Alors pas scientifiquement, mais c'est prouvé dès qu'on amène de la culture, c'est vertueux. Et même si on amène de la culture dans un milieu qui, a priori, y est hostile ou en tout cas peu favorable.
Après, bon, il est né au Vidigal, il a grandi au Vidigal, mais après,
c'est
en
favela.
Oui, c'est la favela où tout a commencé en 82. Mais
Vous habitiez, vous aussi ?
Oui, j'ai habité 12 ans dans la favela du Vidigal, donc de 82 à 92, et 10 ans donc. Et en fait, c'est la favela 5 étoiles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le pape Jean-Paul II est venu la visiter pour la pacifier, c'est devenu un réduit culturel. Donc, il y avait Caetano, il y avait Zizi Posse, il y avait Angela Roro, il y avait Sergio Ricciardo.
Qui faisait quoi?
Qui habitait là et qui... Si.
Beno Veloso, il n'a pas habité dans la favela.
Mais ce n'est pas une favela, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est un mot, comme on dit.
Colline.
Voilà.
Alors... Il y a des immeubles, hein,
Voilà. Donc moi j'ai commencé à habiter là, et puis après j'ai pris comme les enfants n'étaient pas bienvenus dans mon immeuble, qui a été l'immeuble de Zizi Posse, Caetano, Angela Roro et tout ça. J'ai acheté une petite maison dans la favela pour pouvoir continuer ce que j'avais commencé avec les enfants, à savoir de la danse et du théâtre.
Oui. Alors vous, voilà, vous venez de la danse, mais qu'on comprenne bien, ces artistes qui sont
Ben, ils avaient 20 ans, ils avaient 25 ans, ils avaient, à leur époque, dans les années 70, c'était...
Parce qu'aujourd'hui, ils habitent plus à Lago.
Ah non, ils habitent à Lago, ils habitent à Saint-Conrad, ils ont même plusieurs maisons, on va dire, dans des endroits extrêmement luxueux, extrêmement protégés aussi. Mais ça reste quand même des gens qui avaient une vie très bohème et c'était avait un petit côté exotique, même pour des Brésiliens, d'habiter là.
Alors, je me permets, Sophie, quand vous disiez aujourd'hui, le Vidigal, c'est une favela 5 étoiles.
Absolument.
Il y a des petits immeubles qui ne sont pas d'ailleurs forcément moches. Il y a du commerce de proximité. On peut acheter une bouteille d'eau à 1h du matin, ça pose absolument aucun problème. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des points de deal et puis il y a des armes, au vu du garant.
Oui, bah, ça a été beaucoup plus violent que ça, hein, ça c'est sûr.
C'est vrai, c'est vrai.
Aujourd'hui, le Vidigal, si vous voulez, le Vidigal, on va dire, il est partagé réellement en trois lieux. C'est-à-dire, t'as toute cette montée qui était l'Estrada do Tamba, si fameuse... dans les années 70, qui sont des petits immeubles, des petits duplex très mignons, etc., vue imprenable sur la favela et sur la mer. Mmh. Et puis après, tu as tous les ouvriers portugais qui construisaient les maisons de la zone sud. Et puis, tu as le petit peuple qui, l'exode rural, qui est emporté par l'exode rural, se sont installés là-bas. Donc, il y a des couches. Tu as les Ciarens qui sont ici, tu as les Paraíba qui sont au-dessus.
Les gens de Paraíba,
voilà,
les différents états.
Les différents états.
C'est segmenté comme ça,
c'est
rigolo. Ouais.
Ouais. Enfin bref, et maintenant, tu as des hôtels, tu as des boîtes de nuit.
Oui.
Et c'est extrêmement recherché, très à la mode, et ça remplit.
Oui. Et en plus, alors moi, je connaissais pas le Vidigal, mais j'y suis allé il y a un an. Je suis allé à la rencontre d'un Français que j'ai interviewé, qui s'appelle Jean-Christophe Turcon, qui est guide touristique, qui fait un guide très respectueux, on n'est pas aux zoo, hein, quand il fait le tour de la favela. Et il m'expliquait que c'est un endroit où il y a un indice de criminalité de zéro.
Oui, parce qu'il y a toute une intégration qui s'est faite. Quand nous, on a commencé en 82 par le biais donc de la danse, du théâtre, ces jeunes-là sont devenus des acteurs à la télévision Globo. Ensuite, il y a eu des gens qui sont venus et qui ont développé des activités liées à la mode. Donc, ça, c'est très connu aussi.
Et puis, il y a des associations.
Puis maintenant, ils se sont constitués. Moi, j'ai des jeunes qui se sont constitués, qui sont leaders communautaires, qui développent des activités sportives, de l'alphabétisation, de l'accueil des femmes. Et c'est énorme. Et ils travaillent aujourd'hui pour la municipalité. C'est des gens qui ont 35, 40 ans, 45 ans. Et qui sont qui étaient mes enfants, quoi.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Thank you.
Yeah.
Sophie Tsitsijvili de Panasket. J'ai dit qu'on était à 35 km de Rio. Nous sommes dans votre maison, donc, qui est aujourd'hui un point de culture que vous avez cédé, le Jardin de Gaïa. Mais pour les auditeurs, est-ce que vous pouvez quand même décrire un petit peu où on se trouve ?
Vous êtes à l'extrême sud de Rio, quand vous avez passé la Barra da Tijuca, qui est une plage de 22 ou 27 km, on arrive sur une plage très protégée qui est très connue des surfistes. Et puis ensuite, on arrive dans la...
Vous avez dit surfistes, torfeurs, pardon.
C'est déjà la réserve biologique. Nous sommes dans la réserve biologique de la Pedra Blanca. C'est une réserve de la biosphère. Et donc, je me suis attachée à ce qu'aujourd'hui, toutes nos activités soient liées à l'éducation, à la préservation ambientale. Et donc, nous, on travaille dans une idée de tourisme, tourisme patrimonial, tourisme culturel exclusivement. On est en mesure d'accueillir entre 6 et 10 personnes dans notre petit jardin pour des rencontres avec des musiciens, des acteurs ou des chercheurs, puisqu'on travaille en réseau avec l'université rurale et l'université fédérale et d'autres, bien sûr. Et donc, il y a une petite scène qui nous permet toute forme d'expression et de présentation. Il y a le jardin qui nous permet l'étude des oiseaux, des papillons et bien sûr des plantes. On a un petit coin d'herbes médicinales. On a quelques fruits. C'est parfait. C'est un petit lieu très protégé.
Et connecté surtout, à la nature.
Ouais. Connecté à la nature. Et puis surtout, on est tout près de la fondation Burle-Marx. Burle-Marx, un grand architecte paysagiste extrêmement connu et vénéré ici au Brésil. C'est lui qui a fait la Terra do Flamengo. C'est lui qui a fait tout le paysagisme de Brasilia. C'était vraiment une grande pointure. Et il a ici un lieu extraordinaire de recherche et de développement qui est à 5 km de chez nous. Donc, ce sont aussi des partenaires avec qui on peut travailler. On a eu travaillé avec des jeunes paysagistes de Lille ici qui sont restés plusieurs semaines, qui ont travaillé avec la Fondation Roberto Burle-Marx, qui ont travaillé avec le Jardin botanique de Rio de Janeiro, qui ont travaillé avec le Jardin botanique de São Paulo. Et voilà, on travaille en réseau aussi avec nos partenaires.
Alors, une question, lorsque vous accueillez des gens, lorsque vous organisez un événement, est-ce que c'est payant ? Comment est-ce que c'est financé ? Est-ce que vous avez des aides ?
On n'a aucune aide, ni d'un gouvernement, ni de l'autre. On est complètement autonome et tout ce que nous faisons est collaboratif. Donc, quand les gens viennent, on leur demande en outre de payer leur billet d'avion. Bon, on peut s'occuper, bien sûr, on sait faire. On peut s'occuper d'organiser tout le voyage. Mais on leur demande une participation aux frais, une participation à l'hébergement. Puis après, c'est une petite caisse commune qu'on partage. On partage tous ensemble les repas. On travaille sous la façon du mutirão. C'est une palabre que j'aime beaucoup.
Alors, qu'est-ce que c'est ?
Le mutirão, c'est un chantier, sauf que c'est un chantier collaboratif.
D'accord.
Donc, on fait une cagnotte et on mange sur cette cagnotte. Et on achète les matériaux sur cette cagnotte. Voilà. Mais les gens travaillent gratuitement.
Inês saiu dizendo que ia comprar um pavio pro Lampião. Pode me esperar, mané, eu já volto já. Acendi o fogão, botei água pra esquentar. E pro portão, só pra ver Inês chegar. Anoiteceu e ela não voltou. Fui pra rua feito louco pra saber o que aconteceu. Procurei na central, procurei no hospital e no xadrez. Andei a cidade inteira e não encontrei Inês. Voltei pra casa, triste demais. O que Inês me fez, não se faz. E no chão,
bem perto do fogão, encontrei um papel escrito assim: pode apagar o fogo, mané, eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, eu não volto mais. E nem saiu dizendo que ia comprar um babio pro Lampião. Pode me esperar, mané, eu já volto já. Acendi o fogão, botei água pra esquentar e fui pro portão só pra ver Inês chegar. Anoiteceu e ela não voltou. Fui pra rua feito louco pra saber o que aconteceu. Procurei na central, procurei no hospital e no xadrez. Andei a cidade inteira e não encontrei Inês. Voltei pra casa triste demais. O que Inês me fez não se faz. E no chão, bem perto do fogão, encontrei um papel escrito assim: pode apagar o fogo, mané, eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, eu não volto mais. Pode apagar o fogo, mané, que eu não volto mais.
Sophie Tsitsishvili de Panasket, là vous rentrez du Minas Gerais où vous êtes rendu à l'occasion d'un événement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistait cet événement?
Alors, j'ai été invitée par le Forum do Amanhã, qui est un événement qui a lieu tous les ans à Tiradentes, donc une ville coloniale absolument magnifique.
Très jolie ville, hein?
Oui, un peu mangée par le tourisme, mais au niveau du patrimoine, c'est juste fantastique. C'est la ville de Tiradentes qui a proclamé l'indépendance de la République.
Oui, qui a un petit peu impulsé une logique de se détacher en fait du Portugal et d'accéder à l'indépendance par sa mort, puisqu'il a été supplicié.
C'est la façon, c'est la rencontre des inconfidentes, c'est-à-dire vraiment ceux qui se sont battus contre la couronne portugaise pour devenir indépendant. Donc c'est le fameux cri independente ou morte.
Et voilà. Et puis je pense que, enfin là on s'éloigne un petit peu du sujet, mais il y a eu peut-être aussi un éveil et une influence peut-être du siècle des Lumières qu'on a connu en France qui a éveillé peut-être.
Oui. Bon, on le sent un petit peu parce que ça reste une ville qui réunit des intellectuels, qui réunit des artistes. Il ne se passe pas un mois sans qu'il y ait un festival, musique ou théâtre. Franchement, c'est très...
Alors, pardonnez-moi parce que du coup, j'ai fait un peu dévier la conversation, mais revenons à ce forum de demain.
Alors, le forum du demain, il s'avère que j'ai été invitée à organiser le forum de demain à Paris en septembre.
Dans le cadre de la saison du Brésil en France?
Non, pas du tout.
Ah d'accord.
Pas du tout. C'est-à-dire que nous avons été invités à organiser ce forum. Et comme nous avons organisé le festival Paroles et Merveilles, dont nous fêtions aussi les 10 ans, et qui a été placé sous l'égide de la saison culturelle France-Brésil.
Ah très bien.
On a amalgamé tout ça et on a fait un seul événement tous ensemble. Nous avons adapter la programmation du festival Paroles et Merveilles à la nécessité du Forum do Amanhã. Et c'est comme ça que nous avons pu avoir des tables rondes de haute tenue avec des grands, des personnalités, des chercheurs. Nous avons pu parler de responsabilité sociétale, la responsabilité des entreprises françaises impliquées au Brésil. On a pu parler de coopération bilatérale, de coopération universitaire. On a pu parler de santé publique, de la transmission des savoirs indigènes.
Le tourisme culturel.
Et l'après-midi, avec Radio Aligre, on avait pu parler, organiser la mise en place de rencontres de journalistes et de passeurs de la musique populaire brésilienne. Et ça a été un grand moment, mais c'était vraiment dans le cadre du festival Paroles et Merveilles.
Très bien.
Voilà.
Très bien.
Et du coup, pour nous remercier, l'équipe de Tiradentes nous a invités à venir faire la clôture du Forum d'Amanhã à Tiradentes. Et j'ai eu la chance de pouvoir organiser à nouveau, comme je l'ai fait à Paris, un défilé de mode créative, originale, avec notre amie Benilda qui était à Paris pour un défilé absolument extraordinaire lié à la culture Kadiweo, qui est un peuple du Mato Grosso.
Oui, alors ce n'était pas un défilé de mode bling-bling avec des sacs en strass.
Ah non, pas du tout.
D'accord.
C'était un défilé extrêmement joyeux. Et elle m'a dit, attention, hein, je ne veux pas que ce soit un défilé coincé. Mes dessins, mes peintures sont des peintures de joie et d'orgueil parce que notre peuple s'est battu à la guerre du Paraguay avec le Brésil et a contribué à sauver le Brésil. Donc, c'est vraiment de la joie et un grand bonheur de pouvoir défiler avec ses dessins, explique-le au mannequin. Et donc, c'était un défilé d'une non seulement d'une richesse visuelle très, très particulière, mais en plus, c'était une joie magnifique. Il y avait une communication avec le public, c'était extraordinaire. On a fait donc ce défilé, on a fait un salão poético, où là, c'est notre ami Tom Cabello, notre partenaire privilégié dans le salão.
C'est une petite sauterie, on dirait.
Ah, pas du tout, c'est plus une rencontre. C'est une rencontre poétique et littéraire en général, où les uns et les autres sont appelés à venir sur scène, à déclamer une poésie, à dire quelque chose. Et c'est vraiment un échange, c'est vraiment une rencontre. C'est ça, un salão. Et donc, c'est Tom Cabello, notre partenaire à Salvador de Bahia, qui est le producteur de Paroles et Merveilles avec moi, qui a animé ce salão à l'invitation du Forum d'Amanhã. Donc, c'était vraiment super de pouvoir faire la clôture. Nous étions le 29 septembre à Paris, à l'Hôtel de l'Industrie, et nous étions le 29 novembre à Tiradentes. Voilà.
De là où tout est parti, en fait. Le Forum de demain, il est parti.
Il est parti de là, ouais. Mais pour nous, c'était aussi la clôture de Paroles et Merveilles. Ce qui est un mensonge, parce que comme nous sommes sous label France-Brésil, et que ça se finit
à la fin de l'année,
on a un salão poético à Salvador jeudi soir.
Très bien.
Sur la Praia do Forte, sur la plage à Salvador de Bahia.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Soluçar de dor no canto do Brasil, um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares onde se refugiou. Ora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Mas que é bonito.
Alors, Sophie Tsitsishvili de Panasket, nous sommes début décembre 2025. La situation économique, on va dire, la température de la société aussi, j'ai l'impression par rapport à l'année dernière où j'étais exactement à la même période que c'est plutôt plus difficile pour les Brésiliens. Je vois plutôt plus de gens dormir dans la rue. Quel est votre ressenti sur aujourd'hui? Quelle est la situation au Brésil?
C'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que j'ai vécu au Brésil sous la dictature et depuis, je ne vois pas vraiment du progrès. Ça, c'est toujours. Il y a une telle résilience dans ce peuple que c'est sûr qu'il souffre. C'est sûr qu'il souffre. Mais après qu'on se soit libéré du bolsonarisme, tout ne peut être que beauté. Donc on espère très sincèrement que Lula accomplisse ses promesses. On comprend très bien qu'il veuille sauver le pétrole du Brésil, hein, parce qu'il en faut. On n'a pas que des idées et on ne peut pas lui en vouloir pour ça. Après, l'histoire de la COP30 a été un énorme moment pour les Brésiliens, surtout aussi pour les peuples indigènes qui ont été extrêmement mobilisés, il y avait une synergie entre tous ces peuples juste extraordinaire. Et d'après Benilda Cadillo, ça a été un moment d'une très grande intensité et qui leur a montré qu'ils n'étaient plus seuls. Ils ne travaillent plus tous, chacun dans leur coin. Donc à ce niveau-là, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que les populations indigènes soient entendues. Maintenant, je ressens comme d'habitude une classe moyenne haute sans aucun intérêt pour les petites gens. Et pour les petites gens, c'est le train-train, la routine, la survie, l'effort quotidien de chercher à donner à manger à ses enfants et à vivre. Voilà, donc ça c'est un petit peu le côté tragique du Brésil, mais c'est un pays anthropophage, vous voyez.
Oui, absolument. Il y a eu l'anthropophagie pratiquée par les peuples indigènes au sens propre, et puis il y a eu aussi, au début du XXe siècle, un mouvement artistique qui se revendiquait anthropophage.
Oh, sweet.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Alors, Sophie, si je...
Anthropophage, parce qu'ils absorbent la culture des autres. Et là, maintenant, il y a un renouveau, enfin, ça fait quand même quelques années, où il y a une recherche d'identité, où il y a une promotion de l'identité culturelle. Et l'identité culturelle, elle est tellement multiple que c'est très, très difficile. Mais il est, enfin, pour moi, je trouve dommage de devoir la sectorialiser en peuple noir, en peuple indigène. Pour moi, il y a les Brésiliens. Il n'y a pas...
Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Alors, c'est un peuple, évidemment, mélangé par essence. Et c'est intéressant ce que vous disiez, parce que l'indigène qui pratiquait donc le cannibalisme disait il faut manger le foie, il faut tuer son ennemi et dévorer son foie pour, parce qu'il pensait qu'il allait s'accaparer sa force. Et le mouvement artistique dans les années 1920, c'était eh ben nous, ça nous intéresse, qu'est-ce qui se fait en Europe, quelles sont les tendances artistiques en Angleterre, aux États-Unis, ça nous passionne, et on va prendre ça, et on va dévorer aussi tout ça, et on va enrichir notre propre forme de faire de l'art. C'est un vrai atavisme, le cannibalisme et l'anthropophagie quand on est brésilien.
Ce qui me dérange un petit peu, c'est que le racisme est là, il est bien là, il est vraiment ancré, il existe depuis longtemps, et...
Non, c'est bien.
Et il va pas, c'est pas possible de s'en défaire comme ça. Et je pense que c'est très difficile, et ça sera de plus en plus difficile si on reste sur l'idée nous sommes noirs, on revendique notre culture noire. Nous sommes indigènes, nous revendiquons la culture indigène. Je trouve que c'est extrêmement important, mais il faudrait aussi comprendre que les Européens ont apporté énormément au niveau culturel aussi. Donc, ce mélange extraordinaire qu'est le Brésil, c'est ça qu'il faut valoriser. Je pense que c'est le mélange qu'il faut valoriser.
Alors, je vous rejoins complètement. Je trouve qu'on n'a pas forcément intérêt à être communautariste.
C'est ça.
Et alors, c'est très bien qu'aujourd'hui, il y ait les gamins qui, et on leur redonne l'orgueil, entre guillemets, d'être noir, qu'est-ce que ça signifie d'être noir, et en termes d'héritage, tout ce que l'Afrique a apporté. Mais si on a une approche purement communautariste, j'ai envie de dire, chacun va être dans son coin et c'est pas très marrant, autant qu'on discute tous ensemble, quoi.
C'est ça, et c'est pour ça que le prochain Parole et Merveille sera orienté sur la mémoire et l'identité culturelle.
Alors, Sophie Tsitsijvili de Panasket, vous avez évoquait l'ancien président de la République, Jair Bolsonaro.
On ne mentionne pas son nom, vous savez.
Vous avez dit...
J'ai juste parlé de l'ancien président.
Voilà.
Et de l'ancien gouvernement même.
Voilà. Si on peut, je crois que vous avez dit si on peut s'en débarrasser, ou etc. Mais là, j'ai envie de dire, on vient d'apprendre, ça ne fait pas très longtemps, que ça y est, il purge sa peine en prison, parce qu'il avait été condamné, mais il n'était pas emprisonné. Donc, j'ai envie de dire, a priori, le danger est écarté.
Bien sûr que non. Bien sûr que non.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Ben que sa doctrine et sa haine pour le menu peuple a fait tâche. On sait très bien qu'il y a une tendance à ce que sa femme se présente pour les élections, et donc rien n'a changé. Il faut, enfin, excusez-moi, mais je ne fais pas de politique, ni en France, ni au Brésil.
D'accord. Mais alors, c'est vrai que la société est quand même très, très polarisée. Vous avez évoqué la COP à Belém, et effectivement, c'était un signal fort déjà du gouvernement de dire « je vais organiser la COP et ça va se passer en Amazonie ». Il faut dire que l'ancien gouvernement avait tout à fait méprisé les territoires indigènes, etc. Ça ne l'intéressait pas du tout. Le gouvernement actuel est quand même beaucoup plus, j'ai l'impression, respectueux des indigènes qui, quand même, sont méprisés, je trouve, par une grande partie de la population brésilienne. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les pauvres indigènes, mais ils sont encore aujourd'hui, souvent, je trouve, méprisés. Je n'ai pas d'explication, je ne sais pas d'où ça vient. Ils vivent parfois comme des parias, je ne sais pas ce qui explique ça.
Oui, mais c'est ça, c'est du communautarisme. Les Tziganes aussi, on a peur des Tziganes. c'est très spécial, mais c'est une certaine classe qui est la classe moyenne et principalement la classe liée à l'agro-négoce qui maintient cette distance avec les peuples indigènes. Ils savent pas, ils se sont appropriés les terres, leurs terres et
oui, ils pratiquent une agriculture extensive.
Oui, ou là, ou les garimpeiros encore.
J'adore.
Voilà, donc non, ça c'est on vit encore au Moyen Âge à ce niveau-là, ça c'est sûr, c'est sûr.
Est-ce que malgré tout, vous avez un tempérament positif, optimiste?
Ah oui, appelez-moi Candide.
Ah, mais très bien. Il faut cultiver son jardin.
C'est ça.
Et aujourd'hui, c'est une belle journée.
Oui, il fait très, très beau. Et vous pouvez regarder, il y a des beaux papillons bleus, il y a des colibris. On a cinq sortes de colibris différents dans le jardin. On a des toucans dans notre arbre ici. Enfin bon, c'est juste fabuleux.
Eh bien, merci de m'avoir accueilli chez vous, Sophie Tsitsijvili de Panasket.
Bienvenue et bienvenue à ceux qui voudront venir découvrir le Brésil d'une autre façon.
Alors, comment faire si on veut vous procurer, comme on dit en bon français,
Les Apprentis de l'Espérance.
Entre autres.
3xW.
Les Apprentis de
Brésil avec un S, 21.org.
Voilà, car il y a plusieurs Brésils. Merci, Sophie.
Merci.
Morada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo, é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim vagando. Uma estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim vagando numa estrada perdida, alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.